voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'académicien Paul Valéry, dont nous avons tous en tête le superbe poème du cimetière marin, fut en effet immensément et passionnément attiré par cet élément, la mer. Valéry se passionna aussi pour les mathématiques, la musique, la poésie. Ses interrogations sur le savoir se nourrirent de l'univers scientifique de Bergson, d'Einstein, de Louis de Broglie, de Langevin. Après la Première Guerre mondiale, la célébrité devait peu à peu élever Paul Valéry au rang de poète d'État. Il multiplia dans les années 1920 et 1930 les conférences, les voyages officiels, les communications de toutes sortes, tandis que pleuvaient sur lui les honneurs. En 1924, il remplaça Anatole France à la présidence du Pen Club français et lui succéda à l'Académie française, où il fut élu le 19 novembre 1925. Lorsque éclata la Seconde Guerre mondiale, Paul Valéry, qui avait reçu en 1931 le maréchal Pétain à l'Académie, s'opposa vivement à la proposition d'Abel Bonnard, qui voulait que l'Académie adressât ses félicitations au chef de l'État pour sa rencontre avec Hitler à Montoire. Directeur de l'Académie en 1941, Valéry devait par ailleurs prononcer l'éloge funèbre de Bergson dans un discours qui fut salué par tous, comme un acte de courage et de résistance. Refusant de collaborer, Paul Valéry allait perdre sous l'occupation son poste d'administrateur du centre universitaire de Nice. Et par une ironie du sort, Valéry mourut le 20 juillet 1945, c'est-à-dire la semaine même où s'ouvrait, dans la France libérée, le procès Pétain. Après des funérailles nationales, il fut inhumé à Sète, dans son cher cimetière marin. En ces temps de célébration de l'Europe, sa création, son développement, son devenir pour les générations d'aujourd'hui et de demain, Canal Académie a souhaité vous faire écouter, dans la voix de Robert Werner, qui est correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, des textes réflexions de Paul Valéry sur l'Europe, des textes réunis dans les collections de la Pléiade. Grâce donc à la voix de Robert Werner, je vous laisse tout de suite en compagnie de la pensée européenne de Paul Valéry.
De toutes ces réalisations, les plus nombreuses, les plus surprenantes, les plus fécondes ont été accomplies par une partie assez restreinte de l'humanité et sur un territoire très petit relativement à l'ensemble des terres habitables. L'Europe a été ce lieu privilégié. L'Européen, l'esprit européen, l'auteur de ces prodiges. Qu'est-ce donc que cette Europe ? C'est une sorte de cap du vieux continent, un appendice occidental de l'Asie. Elle regarde naturellement vers l'ouest. Au sud, elle borde une illustre mer dont le rôle, je devrais dire la fonction, a été merveilleusement efficace dans l'élaboration de cet esprit européen qui nous occupe. Tous les peuples qui vinrent sur ces bords se sont pénétrés. Ils ont échangé des marchandises et des coûts. Ils ont fondé des ports et des colonies où non seulement les objets de commerce, mais les croyances, les langages, les mœurs, les acquisitions techniques étaient les éléments des trafics. Avant même que l'Europe actuelle ait pris l'apparence que nous lui connaissons, la Méditerranée avait vu, dans son bassin oriental, une sorte de pré-Europe s'établir. L'Égypte, la Phénicie ont été comme des préfigures de la civilisation que nous avons arrêtée. Vinrent ensuite les Grecs, les Romains, les Arabes, les populations ibériques. On croit voir autour de cette eau étincelante et chargée de sel la foule des dieux et des hommes les plus imposants de ce monde. Horus, Isis et Osiris, Astarté et les Kabyres, Pallas, Poséidon, Minerve, Neptune et leurs semblables régnèrent concurremment sur cette mer qui a ballotté les étranges pensées de Saint Paul comme elle a bercé les rêveries et les calculs de Bonaparte. Mais sur ces bords, où tant de peuples s'étaient déjà mêlés et heurtés, et instruits les uns les autres, vinrent au cours des âges d'autres peuples encore, attirés vers la splendeur du ciel, par la beauté et par l'intensité particulière de la vie sous le soleil. Les Celtes, les Slaves, Les peuples germaniques ont subi l'enchantement de la plus noble des mères, une sorte de tropisme invincible, s'exerçant pendant des siècles, a donc fait de ce bassin aux formes admirables l'objet d'un désir universel et le lieu de la plus grande activité humaine. Activité économique, activité intellectuelle, activité politique, activité religieuse, activité artistique, tout se passe du moins, tout semble naître autour de la mer itinérante. C'est là que l'on assiste au phénomène précurseur de la formation de l'Europe et que l'on voit se dessiner à une certaine époque la division de l'humanité en deux groupes de plus en plus dissemblables. L'un, qui occupe la plus grande partie du globe, demeure comme immobile dans ses coutumes, dans ses connaissances, dans sa puissance pratique. Il ne progresse plus ou ne progresse qu'imperceptiblement. L'autre est en proie à une inquiétude et à la recherche perpétuelle. Les échanges s'y multiplient, les problèmes les plus variés s'agitent dans son sein. Les moyens de vivre, de savoir, de pouvoir s'accroître s'y accumulent de siècle en siècle avec une rapidité extraordinaire. Bientôt, la différence de savoir positif et de puissance entre elle et le reste du monde devient si grande qu'elle entraîne une rupture d'équilibre. L'Europe se précipite hors d'elle-même. Elle part à la conquête des terres. La civilisation renouvelle les invasions primitives dont elle inverse le mouvement. L'Europe, sur son propre sol, atteint le maximum de la vie, de la fécondité intellectuelle, de la richesse et de l'ambition. Cette Europe triomphante qui est née de l'échange de toutes choses spirituelles et matérielles, de la coopération volontaire et involontaire des races, de la concurrence des religions, des systèmes, des intérêts, sur un territoire très limité, m'apparaît aussi animée qu'un marché où toutes choses bonnes et précieuses sont apportées, comparées, discutées, échangent de mains. C'est une bourse où les doctrines, les idées, les découvertes, les dogmes les plus divers sont mobilisés, sont cotés, montent, descendent, sont l'objet des critiques les plus impitoyables et des engouements les plus aveugles. D'une part, les terres nouvelles de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Afrique, les antiques empires de l'Extrême-Orient, envoient à l'Europe leurs matières premières pour les soumettre à ces transformations étonnantes qu'elle seule sait accomplir. D'autre part, les connaissances, les philosophies, les religions de l'ancienne Asie viennent alimenter les esprits toujours en éveil que l'Europe produit à chaque génération. Et cette machine puissante transforme les conceptions plus ou moins étranges de l'Orient, en éprouve la profondeur, en retire les éléments utilisables. Notre Europe, qui commence par un marché méditerranéen, devient une vaste usine. Usine au sens propre, machine à transformation, mais encore usine intellectuelle incomparable. Cette usine intellectuelle reçoit de toutes parts les choses de l'esprit. Elle les distribue à ses innombrables organes. Les uns saisissent tout ce qui est nouveauté avec espoir, avec avidité, en exagèrent la valeur. Les autres résistent, opposent à l'invasion des nouveautés l'éclat et la solidité des richesses déjà constituées. Entre l'acquisition et la conservation, un équilibre mobile doit se rétablir sans cesse. Mais un sens critique toujours plus actif attaque l'une ou l'autre tendance, exerce sans pitié les idées en possession et en faveur. Éprouve et discute sans pitié les tendances de cette régulation toujours obtenue. Il faut que notre pensée se développe et il faut qu'elle se conserve. Elle n'avance que par les extrêmes, mais elle ne subsiste que par les moyens. L'ordre extrême, quel automatisme, serait sa perte. Le désordre extrême la conduirait encore plus rapidement à l'abîme. Enfin, cette Europe peu à peu se construit comme une ville gigantesque. Elle a ses musées, ses jardins, ses ateliers, ses laboratoires, ses salons. Elle a Venise, elle a Oxford, elle a Séville, elle a Rome, elle a Paris. Il y a des cités pour l'art, il y a des cités pour la science, d'autres qui réunissent les agréments et les instruments. Elle est assez petite pour être parcourue en un temps très court qui deviendra bientôt insignifiant. Elle est assez grande pour contenir tous les climats, assez diverse pour présenter les cultures et les terrains les plus variés. Au point de vue physique, c'est un chef-d'œuvre de tempérament et de rapprochement des conditions favorables à l'homme. Et l'homme y est devenu l'Européen. Vous m'excuserez de donner à ces mots d'Europe et d'Européens une signification un peu plus que géographique, un peu plus qu'historique, mais en quelque sorte fonctionnelle. Je dirais presque, ma pensée abusant de mon langage, qu'une Europe est une espèce de système formé d'une certaine diversité humaine et d'une localité particulièrement favorable. Façonné enfin par une histoire singulièrement mouvementée et vivante. Le produit de cette conjoncture de circonstances est un Européen. Il nous faut examiner ce personnage par rapport au type plus simple de l'humanité. C'est une manière de monstre. Il a une mémoire trop chargée, trop entretenue. Il a des ambitions extravagantes, une avidité de savoir et de richesse illimitée. Comme il appartient généralement à quelques nations qui a plus ou moins dominé le monde à son heure et qui rêve encore ou de son César, ou de son Charles Quint, ou de son Napoléon, il y a en lui un orgueil, un espoir, des regrets toujours prêts de se réveiller. Comme il appartient à un temps, à un continent qui ont vu tant d'inventions prodigieuses et tant de hardiesses heureuses dans tous les genres, il n'est de conquête scientifique ni d'entreprise qu'il ne puisse rêver. Il est pris entre des souvenirs merveilleux et des espoirs démesurés. Et s'il lui arrive de verser parfois dans le pessimisme, il songe malgré lui que le pessimisme a produit quelques œuvres de premier ordre. Au lieu de s'abîmer dans le néant mental, il tire un chant de son désespoir. Il en tire quelquefois une volonté dure et formidable, un motif d'action paradoxal et fondé sur le mépris des hommes et de la vie. Mais qui est donc l'Européen ? Je me risque ici avec bien des réserves, avec les scrupules infinis que l'on doit avoir quand on veut préciser provisoirement ce qui n'est pas susceptible de véritable rigueur. Je me risque à vous proposer un essai de définition. Ce n'est pas une définition logique que je vais développer devant vous. C'est une manière de voir, un point de vue, étant bien entendu qu'il en existe une quantité d'autres qui ne sont ni plus ni moins légitimes. Eh bien, je considérerai comme européens tous les peuples qui ont subi au cours de l'histoire les trois influences que je vais dire. La première est celle de Rome. Partout où l'Empire romain a dominé, et partout où sa puissance s'est fait sentir, et même partout où l'Empire a été l'objet de crainte, d'admiration ou d'envie, partout où le poids du glaive romain s'est fait sentir, partout où la majesté des institutions et des lois, où l'appareil et la dignité de la magistrature ont été reconnus, copiés, parfois même bizarrement singés, là est quelque chose d'européen. Rome est le modèle éternel de la puissance organisée et stable. Je ne sais pas les raisons de ce grand triomphe. Il est inutile de les rechercher maintenant, comme il est oiseux de se demander ce que l'Europe fut devenue si elle ne fut devenue romaine. Mais le fait nous importe seul, le fait de l'empreinte étonnamment durable qu'a laissé sur tant de races et de générations ce pouvoir superstitieux et raisonné, ce pouvoir curieusement imprégné d'esprit juridique, d'esprit militaire, d'esprit religieux, d'esprit formaliste, qu'a le premier imposé au peuple conquis les bienfaits de la tolérance et de la bonne administration. Vint ensuite le christianisme. Vous savez, comme il s'est peu à peu répandu dans l'espace même de la conquête romaine. Si l'on accepte le Nouveau Monde, qui n'a pas été christianisé, tant que peuplé par des chrétiens, si l'on accepte la Russie, qui a ignoré dans sa plus grande partie la loi romaine et l'Empire de César, on voit que l'étendue de la religion du Christ coïncide encore aujourd'hui presque exactement avec celle du domaine de l'autorité impériale. Ces deux conquêtes si différentes ont cependant une sorte de ressemblance entre elles. Et cette ressemblance nous importe. la politique des Romains, qui s'est faite toujours plus souple et plus ingénieuse, et de qui la souplesse et la facilité croissaient avec la faiblesse du pouvoir central, c'est-à-dire avec la surface et l'hétérogénéité de l'Empire, a introduit dans le système de domination des peuples par un peuple une nouveauté très remarquable. De même que la ville par excellence finit par admettre dans son sein presque toutes les croyances, par naturaliser les dieux les plus éloignés et les plus hétéroclites, et les cultes les plus divers, le gouvernement impérial, conscient du prestige qui s'attachait au nom romain, ne craignit pas de conférer la cité romaine, le titre et les privilèges du civis romanus à des hommes de toute race et de toute langue. Ainsi, par le fait de la même Rome, les dieux cessent d'être attachés à une tribu, à une localité, à une montagne, à un temple ou à une ville, pour devenir universels et en quelque sorte communs. Et d'autre part, la race, la langue et la qualité de vainqueur ou de vaincu, de conquérant ou de conquis, le cèdent à une condition juridique et politique uniforme qui n'est inaccessible à personne. L'empereur lui-même peut être un Gaulois, un Sarmate, un Syrien, et il peut sacrifier à des dieux très étrangers. C'est une immense nouveauté politique. Mais le christianisme, à la parole de Saint-Pierre, quoique l'une des très rares religions qui fussent mal vues à Rome, le christianisme, issu de la nation juive, s'étend de son côté aux gentils de toute race. Il leur confère par le baptême la dignité nouvelle de chrétiens comme Rome conférait à ses ennemis de la veille, la cité romaine. Il s'étend peu à peu dans le lit de la puissance latine, il épouse les formes de l'Empire. Il en adopte même les divisions administratives. Civitas, au Ve siècle, désigne la ville épiscopale. Il prend tout ce qu'il peut à Rome. Il y fixe sa capitale et non point à Jérusalem. Il lui emprunte son langage. Un même homme né à Bordeaux peut être citoyen romain et magistrat. Il peut être évêque de la religion nouvelle. Le même Gaulois, qui est préfet impérial, écrit en pur latin de belles hymnes à la gloire du Fils de Dieu qui est né juif et sujet d'Hérode. Voici déjà un Européen presque achevé. Un droit commun, un Dieu commun, le même droit et le même Dieu, un seul juge pour le temps, un seul juge dans l'éternité. Mais tandis que la conquête romaine n'avait saisi que l'homme politique et n'avait régi les esprits que dans leurs habitudes extérieures, la conquête chrétienne vise et atteint progressivement le profond de la conscience. Je ne vais même pas essayer de mesurer les modifications extraordinaires que la religion du Christ a imposées à cette conscience qu'il fallait rendre universelle. Je ne veux même pas tenter de vous exposer comment la formation de l'Européen en a été singulièrement influencée. Je suis contraint de ne me mouvoir qu'à la surface des choses et d'ailleurs, les effets du christianisme sont bien connus. Je vous rappelle seulement quelques-uns des caractères de son action. Et d'abord, il apporte une morale subjective. Et surtout, il impose l'unification de la morale. Cette nouvelle unité se juxtapose à l'unité juridique que le droit romain avait apportée. L'analyse des deux côtés tente à unifier les prescriptions. Allons plus avant. La nouvelle religion exige l'examen de soi-même. On peut dire qu'elle fait connaître aux hommes de l'Occident cette vie intérieure que les hindous pratiquent à leur manière depuis des siècles déjà. Que les mystiques d'Alexandrie avaient aussi, à leur manière, reconnu, ressenti et approfondi. Le christianisme propose à l'esprit les problèmes les plus subtils, les plus importants et même les plus féconds. Qu'il s'agisse de la valeur des témoignages, de la critique des textes, des sources et des garanties de la connaissance, qu'il s'agisse de la distinction de la raison ou de la foi, de l'opposition qui se déclare entre elles, de l'antagonisme entre la foi et les actes et les œuvres, qu'il s'agisse de la liberté, de la servitude, de la grâce, qu'il s'agisse des pouvoirs spirituels et matériels et de leur mutuel conflit, de l'égalité des hommes, des conditions des femmes, que sais-je encore, le christianisme éduque, excite, fait agir et réagir des millions d'esprits pendant une suite de siècles. Toutefois, nous ne sommes pas encore des Européens accomplis. Il manque quelque chose à notre figure. il y manque cette merveilleuse modification à laquelle nous devons non point le sentiment de l'ordre public et le culte de la cité et de la justice temporelle, et non point la profondeur de nos âmes, l'idéalité absolue et le sens d'une éternelle justice. Mais il nous manque cette action subtile et puissante à quoi nous devons le meilleur de notre intelligence, la finesse, la solidité de notre savoir. Comme nous lui devons la netteté, la pureté et la distinction de nos arts et notre littérature, c'est de la Grèce que nous vinrent ces vertus. Il faut encore admirer à cette occasion le rôle de l'Empire romain. Il a conquis pour être conquis. Pénétré par la Grèce, pénétré par le christianisme, il leur a offert un champ immense, pacifié et organisé. Il a préparé l'emplacement et modelé le moule dans lequel l'idée chrétienne et la pensée grecque devaient se couler et se combiner si curieusement entre elles. Ce que nous devons à la Grèce est peut-être ce qui nous a distingués le plus profondément du reste de l'humanité. Nous lui devons la discipline de l'esprit, l'exemple extraordinaire de la perfection dans tous les ordres. Nous lui devons une méthode de pensée qui tend à rapporter toute chose à l'homme complet. L'homme se devient à soi-même le système de référence auquel toutes choses doivent enfin pouvoir s'appliquer. Il doit donc développer toutes les parties de son être et les maintenir dans une harmonie aussi claire et même aussi apparente qu'il est possible. Il doit développer son corps et son esprit. Quant à l'esprit même, il se défendra de ses excès, de ses rêveries, de sa production vague et purement imaginaire, par une critique et une analyse minutieuse de ses jugements, par une division rationnelle de ses fonctions, par la régulation des formes. De cette discipline, la science devait sortir, notre science, c'est-à-dire le produit le plus caractéristique, la gloire la plus certaine et la plus personnelle de notre esprit. L'Europe est avant tout la créatrice de la science. Il y a eu des arts de tout pays, il n'y eut de véritable science qu'en Europe. Sans doute, il existait avant la Grèce, en Égypte et en Chaldée, une sorte de science dont certains résultats peuvent sembler encore remarquables, mais c'était une science impure, qui se confondait tantôt avec la technique de quelques métiers, qui comportait d'autrefois des préoccupations infiniment peu scientifiques. L'observation a toujours existé. Le raisonnement a toujours été employé. Mais ces éléments essentiels n'ont de prix et n'obtiennent de succès régulier que si d'autres facteurs ne viennent pas en vicier l'usage. Pour construire notre science, il a fallu qu'un modèle relativement parfait lui fût proposé, qu'une première œuvre lui fût offerte comme idéale, qui présenta toutes les précisions, toutes les garanties, toutes les beautés, toutes les solidités, et qui définit une fois pour toutes le concept même de science comme construction pure et séparée de tout souci autre que celui de l'édifice lui-même. La géométrie grecque a été ce modèle incorruptible, non seulement modèle proposé à toute connaissance qui vise à son état parfait, mais encore modèle incomparable des qualités les plus typiques de l'intellect européen. Je ne pense jamais à l'art classique que je prenne invinciblement, pour exemple, le monument de la géométrie grecque. La construction de ce monument a demandé les dons les plus rares et les plus ordinairement incompatibles. Les hommes qui l'ont bâti étaient des durs et pénétrants ouvriers, des penseurs profonds, mais des artistes d'une finesse et d'un sentiment exquis de la perfection. Songez à la subtilité et à la volonté qu'il leur a fallu pour accomplir l'ajustement si délicat, si improbable, du langage commun au raisonnement précis. Songez aux analyses qu'ils ont faites d'opérations motrices et visuelles très composées, et comme ils ont bien réussi dans la correspondance nette de ces opérations avec les propriétés linguistiques et grammaticales. Ils se sont fiés à la parole et à ses combinaisons pour les conduire sûrement dans l'espace. Sans doute, cet espace est devenu une pluralité d'espaces. Sans doute s'est-il singulièrement enrichi, et sans doute cette géométrie qui semblait si rigoureuse jadis a laissé voir bien des défauts dans son cristal. Nous l'avons examiné de si près que là où les Grecs voyaient un axiome, nous en comptons une douzaine. À chacun de ces postulats qu'ils avaient introduits, nous savons qu'on peut en substituer quelques autres et obtenir une géométrie cohérente et parfois physiquement utilisable. Mais songez à la nouveauté que fut cette forme presque solennelle et qui est dans son dessin général si belle et si pure. Songez à cette magnifique division des moments de l'esprit, à cet ordre merveilleux où chaque acte de la raison est nettement placé, nettement séparé des autres. Cela fait penser à la structure des temples, machines statiques dont les éléments sont tous visibles et dont tous déclarent leur fonction. L'œil considère la charge, le soutien de la charge, les parties de la charge, le tas et ses moyens d'équilibre. L'œil divise et régit sans effort ces masses bien dressées, dont la taille même et la vigueur sont appropriées à leur rôle et à leur volume. Ces colonnes, ces chapiteaux, ces architraves, ces entablements et leurs subdivisions et les ornements qui s'en déduisent sans jamais déborder de leur place et de leur appropriation, me font songer à ces membres de la science pure, comme les Grecs l'avaient conçu. Définition, axiome, lemme, théorème, corollaire, porisme, problème, c'est-à-dire la machine de l'esprit rendue visible, l'architecture même de l'intelligence entièrement dessinée. Le temple érigé à l'espace par la parole, mais un temple qui peut s'élever à l'infini. Telles m'apparaissent les trois conditions essentielles qui me semblent définir un véritable Européen, un homme en qui l'esprit européen peut habiter dans sa plénitude. Partout les noms de César, Gaius, de Trajan et de Virgile, partout les noms de Moïse et de Saint-Paul, partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont une signification et une autorité simultanées, là est l'Europe. Toute race ou toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit, à la discipline des Grecs, est absolument européenne. On en trouve qui n'ont reçu qu'une ou deux de ces empreintes. Il y a donc quelques traits bien distincts de la race, de la langue et même de la nationalité qui unit et assimile les pays de l'Occident et du centre de l'Europe. Le nombre des notions et des manières de penser qui leur sont communes est bien plus grand que le nombre des notions que nous avons de communes avec un arabe ou un chinois. En résumé, il existe une région du globe qui se distingue profondément de toutes les autres au point de vue humain. Dans l'ordre de la puissance et dans l'ordre de la connaissance précise, l'Europe pèse encore aujourd'hui beaucoup plus que le reste du globe. Je me trompe, ce n'est pas l'Europe qui l'emporte, c'est l'esprit européen dont l'Amérique est une création formidable. Partout où l'esprit européen domine, on voit apparaître le maximum des besoins, le maximum de travail, le maximum de capital, le maximum de rendement, le maximum d'ambition, le maximum de puissance, le maximum de modification de la nature extérieure, le maximum de relations et d'échanges. Cet ensemble de maxima est Europe, ou image de l'Europe. D'autre part, les conditions de cette formation et de cette inégalité étonnante tiennent évidemment à la qualité des individus, à la qualité moyenne de l'homo europaeus. Il est remarquable que l'homme d'Europe n'est pas défini par la race, ni par la langue, ni par les coutumes, mais par les désirs et par l'amplitude de la volonté.